Imam Sanogo Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. Est-ce que vous pouvez nous situer le contexte dans lequel votre plateforme a vu le jour?
Il faut dire que cette plateforme est née dans le cadre du PTI.
Vous parliez de PTI, qu'est-ce que ça veut dire?
Le PTI, c'est le programme Inclusion et Transition Politique. C'est un programme qui, dans un de ses pans, travaille avec les politiciens, les partis politiques, pour permettre aux partis politiques de se parler et de créer un certain nombre de cohésions au niveau des jeunes, au niveau des ONG et un pan au niveau des religieux. Donc c'est un programme du NDI, du National Democratic Institute, qui a été mis en place. Le PTI est fini il y a quelques mois de cela. Ils sont en train de réfléchir à mettre un autre programme en place. Donc au niveau du NDI, il y a un programme qui avait un volet dialogue interreligieux. Donc c'est dans ce cadre-là que les religieux ont été invités, venus des 15 localités de la Côte d'Ivoire, venus du Burkina, du Mali, de Mauritanie, pour venir se rencontrer dans un hôtel de la place en 2020. Et c'est après cette rencontre-là qu'il a été décidé donc de créer cette plateforme-là qui allait d'abord accompagner, n'est-ce pas, le NDI dans le cadre du PTI, mais aussi se consacrer à toute la Côte d'Ivoire pour mettre en marche d'autres programmes pour pouvoir aider les religieux à pouvoir se parler. Parce que c'est quand on se parle qu'on évite les palabres. Quand on se parle, on arrive à se connaître, on arrive à partager beaucoup de choses ensemble et à se comprendre. On a vu que c'était important et nous avons installé près de 15 plateformes à travers la Côte d'Ivoire et nous avons même été à la base de la création de plateformes interreligieuses au Burkina et puis au Mali. Nous nous sommes retrouvés à Korogo lors d'un atelier de change et à l'issue de cet atelier-là, il y a ces plateformes-là qui sont nées au Burkina et au Mali.
Imam Sanogo, vous avez effectué du 27 février au 1er mars 2024 une visite de travail dans 4 localités dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ce projet que vous avez entrepris dans cette partie du pays?
Depuis quelques temps, nous travaillons sur un projet qui est le fonds de résilience de l'ambassade des États-Unis qui a pour objectif de travailler dans le cadre de ressouder le tissu social, permettre aux religieux de se parler, mais au-delà de cela, permettre aux communautés de se parler. Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons donc 4 localités que nous visitons. Nous avons la localité de Kafolo, la localité de Bolé, la localité de Moro-Moro et la localité de Toubo. Et il n'y a pas longtemps, nous sommes allés visiter ses frères et sœurs pour leur parler de la nécessité pour nous, Ivoiriens, et surtout pour eux qui sont aux frontières et on sait les difficultés qu'ont nos États à cause de ces frontières-là parce qu'il y a des menaces de l'autre côté. Donc, les amener à pouvoir se parler, chrétiens, musulmans se parler, dans les communautés aussi se parler, surtout les communautés étrangères et puis les autochtones se parler parce que cela pourrait participer à créer un barrage solide qui va empêcher l'ennemi de pouvoir rentrer. Nous devrons installer 4 plateformes féminines.
Vous êtes dans la continuité du PTI à travers ce projet que vous menez dans les 4 localités que vous avez citées tantôt.
Oui, nous sommes dans la continuité du PTI parce que nous, notre rôle dans le PTI, c'était de parler du dialogue interreligieux, la nécessité pour les religieux de se parler. Et nous avons compris que c'était vraiment nécessaire. Vous voyez, on a eu à faire un exercice comme ça à Bobo où le musulman que j'étais, je suis allé dans une église échanger avec nos frères chrétiens et puis on leur a dit qu'est-ce qu'ils ont entendu sur l'islam, quels sont les préjugés, les choses qu'ils ont entendues qui leur font peur. Mais ils ont dit de ces choses-là qui sont énormes et on a échangé et ils ont compris. Parce que, preuve à l'appui avec le Coran, ils ont compris que vraiment tout ça n'était que faux. C'est la même chose que notre vice-président qui est le pasteur Djoa, qui est parti aussi dans une mosquée et qui a échangé avec les musulmans. Et les musulmans ont dit plein de choses aussi. Il a eu à rectifier à travers des versets bibliques. Donc, pour dire que quand on arrive à se parler, on arrive à éliminer un certain nombre de choses qui, en réalité, ne sont pas vraies, mais qui participent à pouvoir créer ce fossé-là qui nous divise et qui permet à l'ennemi de pouvoir utiliser ce pan religieux pour mettre les communautés en palabre. Donc, nous travaillons dans ce cadre du PTI. Nous avons eu un fonds qui est le fonds FOB. Le fonds FOB a repris toutes les plateformes qui avaient été mises en place dans le cadre du PTI. Donc, le fonds FOB, là, nous travaillons actuellement avec ces localités. Là, nous sommes déjà en fin d'exercice dans le cadre de ce fonds-là. Mais ça se passe très bien. Nous avons de très bons résultats et c'est formidable de voir qu'en Côte d'Ivoire, les religieux n'ont pas de problème. Parce que quand nous partons, on est accueillis avec joie, on est accueillis accueillis avec beaucoup d'entrain.
Vous avez mené donc une série de missions dans 4 localités, Kafolo, Bolé, Tougbo et Moro-Moro. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres avec ces populations avec lesquelles vous avez échangé?
Il faut dire que d'abord, l'accès à ces localités-là, l'accès est difficile. Pour vous dire combien de fois ils n'ont pas l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes venant d'Abidjan, venant de l'autre côté. Et nous voir venir à leur rencontre, venir échanger avec eux, vraiment, ils ont compris. Comme ils le comprennent tous les jours qu'on ne les a pas oubliés. On a compris avec tout le dispositif à Kafolo que vraiment c'est une zone qui est beaucoup surveillée. C'est une zone qui est fragile. Donc tout peut arriver à tout moment. Mais nos autorités ont fait un travail énorme, un travail gigantesque. Donc ça va. Il s'est trouvé que à Tougbo et à Moro-Moro par exemple, ils nous ont parlé du problème d'eau. Donc c'est un problème qui est crucial. Chacune de ces localités-là, ils ont un château, mais il n'y a pas d'eau. Pour le moment, on ne sait pas quelles sont les raisons. Donc on a l'occasion de dire ça à nos autorités. Mais pour dire qu'ils ont été heureux de nous accueillir, d'échanger avec nous et de nous montrer que malgré le flux d'étrangers qui sont venus suite à ces difficultés que rencontre l'État voisin qui est le Burkina Faso, ces frères qui sont venus à nous, ils ont montré qu'ils vivent ensemble parce qu'il y a le représentant de la communauté burkinabé, de ces réfugiés-là qui étaient là à nos échanges et ils étaient contents. Et sur place, on a rencontré toutes les associations des femmes de ces différentes communautés-là qui étaient prêtes à travailler dans le cadre de ce programme-là. Et je pense qu'on est sûr de pouvoir faire un travail important. Et nous avons rencontré le sous-préfet de Tougbo qui nous a donné beaucoup de conseils et qui a invité, n'est-ce pas, tous les membres de la communauté à nous soutenir dans ce travail que nous faisons. Et il s'est mis à notre disposition. On l'a rencontré à 2 reprises. On a rencontré le commandant du camp de Kafolo qui nous a soutenus aussi dans le travail que nous faisons. Donc, pour dire qu'on a une mission vraiment intéressante et nous pensons que nous avons une raison de pouvoir aller dans ces communautés-là pour pouvoir échanger avec eux parce qu'ils en ont besoin et il est important que nous ne puissions pas les oublier. Et donc ce fonds-là qui est mis en place par l'ambassade des États-Unis est un fonds qui est bienvenu. Nous remercions Madame l'ambassadrice des États-Unis et nous pensons que nous allons tout faire pour que les objectifs qui sont attachés à cette subvention-là, nous puissions les atteindre.
Imam Sanogo Mamadou, vous évoquiez tantôt l'engagement ou la part participation des femmes à travers la mise en place d'une plateforme consacrée aux femmes. Cela répond à quoi? Est-ce que c'est parce que les femmes ne sont pas trop impliquées dans cette question de lutte contre l'extrémisme violent, dans cette question de cohésion sociale dans leur communauté?
Oui, parce que vous savez, l'extrémisme violent, le radicalisme, ces voies de désordre-là rentrent à travers plusieurs maillons faibles. Le premier maillon faible, c'est quand il n'y a pas de cohésion sociale. L'un des maillons aussi, c'est les femmes. Les gens passent aussi par les femmes. Et aussi, la femme, c'est la première porte pour avoir accès à l'éducation. C'est elle qui éduque nos enfants. C'est elles qui sont proches de nos enfants. Les enfants sont plus proches de leur maman. Donc, celui qui a pu sensibiliser la femme a pu sensibiliser la communauté. Parce que le ministre de l'Intérieur, dans la famille, c'est la femme. C'est celle-là qui est un soutien important. Et chez nous, en islam, on dit le paradis de l'enfant se trouve au pied de sa mère. Donc, il était important que nous puissions nous intéresser à cette frange de la communauté-là. Et surtout dans ces communautés-là, dans ces localités-là, qui sont beaucoup traditionnelles. Et quand c'est comme ça, souvent la femme n'a pas toujours droit à la parole à tout moment, à tout instant. Donc il était important, à travers ces plateformes-là, qu'on puisse mettre aussi les femmes en mission pour nous accompagner dans ce processus-là, de telle sorte que les hommes aussi vont sentir ce poids de soutien de ces femmes-là.
Quel a été le degré d'engagement de ces femmes dans le processus, dans tout ce que vous avez entrepris, les échanges que vous avez eus avec ces femmes relativement à rétablir la paix, à renforcer la cohésion dans leur localité?
Nous sommes allés trouver des femmes engagées parce qu'il y avait dans ces différentes communautés, au minimum, la localité qui n'avait pas trop d'associations de femmes, c'était au moins 3 associations. Il y a une localité, je pense la localité de Bolé, où on allait à près de 11 associations de femmes. Donc déjà, c'est des femmes militantes et nous avons voulu donc utiliser donc ces associations-là pour militer aussi dans une autre cause qui est la cause du renforcement de la cohésion sociale, la cause de la lutte pour ramener la paix dans notre pays, surtout dans ces localités-là qui ont connu souvent un certain nombre de difficultés. Donc, ce sont des femmes engagées. Elles sont venues nombreuses, étaient plus nombreuses que les hommes. On s'est entretenu avec la communauté et puis après, on s'est entretenu avec les femmes. On a trouvé ça vraiment efficace. Quand on est parti dans les autres communautés, dans les 15 localités du PTI, il y avait plus d'hommes. Mais ici, vraiment, les femmes étaient nombreuses. nombreuses. Ça nous a vraiment beaucoup marqué. Et on pense qu'avec ces femmes-là, c'est véritablement des femmes leaders. Quand elles prennent la parole, elles savent de quoi elles parlent. Vous savez qu'elles ont envie d'apporter quelque chose. Et quand je pense que c'est pratiquement des femmes qui ne sont pas là à l'école, en griffe, je pense qu'avec l'école de la vie, elles ont appris beaucoup de choses et elles ont beaucoup de choses à apporter dans ce travail de prévention contre l'extrémisme violent.
Est-ce que, à côté de ces femmes, vous avez pu toucher les jeunes qui sont les cibles majeures de ces personnes qui ont l'intention, par exemple, d'utiliser l'islam ou la religion pour radicaliser ces jeunes?
Vous savez, le projet a deux pans. Le premier pan, c'est au niveau des religieux. Et donc, c'est une mission qui est donnée aux chrétiens, aux musulmans, dans leur mosquée, dans leur temple, dans leurs églises, de pouvoir amener leur communauté à adhérer au principe du vivre ensemble. Et vous savez, aujourd'hui, la majorité de la population est jeune. Et donc, dans nos mosquées, dans nos lieux de culte, tout ça, c'est une jeunesse qu'on trouve. Donc, à travers ce pan-là, on s'adresse aussi aux jeunes, parce que les jeunes étaient aussi là. Et quand on s'adresse aussi aux femmes, comme on l'a dit, on s'adresse aussi aux enfants, parce que la priorité des femmes, c'est les enfants. Quand vous voyez souvent une femme qui est triste, c'est à cause de la famille. Peut-être elle n'arrive pas à avoir d'enfant, ou bien elle a un enfant, l'enfant est égaré. C'est ça, la famille qui fait en sorte que la femme est triste. Donc, si la femme est engagée dans un processus, on est convaincu que l'éducation des enfants là, seront vraiment assurées. Et quand on met les femmes en mission, c'est une mission pour parler aux hommes et pour parler à leurs enfants. Donc, pensons qu'avec ce processus-là, nous allons atteindre une masse de population vraiment dense.
On va finir, juste que vous nous dites ce que vous souhaitez qu'on retienne de ces quelques jours de mission que vous avez effectués dans cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire, des zones qui ont été touchées par des attaques terroristes.
Ce que je voulais dire et puis attirer le regard de toute la communauté, c'est de savoir que aussi par la pauvreté, on peut s'adonner à des actes qui ne sont pas bien. Parce que souvent, ces personnes qui viennent installer le désordre, souvent ils ont de l'argent qu'ils proposent à notre jeunesse, qu'ils proposent à nos populations afin de pouvoir installer le chaos. Donc, demander à nos autorités vraiment d'avoir un regard sur ces localités-là. Comme je l'ai dit, on est allé à Toubo, on est allé à Moro-Moro. Il y a un château, il n'y a pas d'eau. Et les femmes souffrent pour pouvoir obtenir de l'eau. Et ça, il faut qu'on fasse attention. Il y a aussi dans leur culture le travail. On a rencontré des dames qui ont fait de grands hectares d'oignons, mais souvent elles n'ont pas le matériel pour pouvoir faire de grandes surfaces et vraiment pouvoir avoir de bonnes récoltes. Donc je pense qu'elles ont besoin d'être accompagnées et c'est ce que nous demandons à la communauté et nous pensons que nous sommes à une première phase, nous allons encore retourner là-bas et nous allons faire un grand rapport, que ce soit à l'ambassade des États-Unis qui, à travers ce fonds-là, nous met en mission, mais aussi avec nos autorités, nous allons aussi faire un point pour qu'ils puissent savoir ce que nous avons fait et ce que ces populations-là attendent, malgré tout le grand travail qui est fait dans ces quatre localités.
Merci, Imam Sanogo Mamadou.
Merci, merci beaucoup, M. Mavia.
C'était l'entrevue